Il est temps de vous rebeller!
Nous sommes intouchables. Pour nous sauver, l'État mettra tout sur la table.
Émission Rebelle ce soir dans le rendez-vous sur France Culture. Il sera question de théâtre, de peinture, de lumière, de comédie française, d'ours blanc et même de cochon avec le réalisateur Mike Lee qui signe Mr. Turner, un film centré sur les dernières années de la vie du peintre avec en creux l'autoportrait possible du cinéaste au travail, Benoît Lagan.
Nouveau film pour un réalisateur formé aux arts plastiques et aux arts dramatiques ou comment cadrer et éclairer Turner au cinéma.
19h30, plateau autobiographie avec Jacques Weber qui publie « J'aurais aimé être un rebelle », parcours rétrospectif d'un acteur metteur en scène qui aura fait du théâtre son art de vivre, Lucille Comeau.
Retour sur le parcours d'un comédien qui n'a cessé de se poser la question de sa propre légitimité sur scène dans une recherche obsessionnelle de l'essence du grand théâtre.
19h50, la session live du jeudi, ce soir, c'est Nancy Boy, Benoît Lagan.
Oui, Nancy Boy pour une session pop, électro, mais à la guitare et au xylophone.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfès que l'on ouvre avec son son du jour.
Il y a plein de mètres carrés, j'espère que plein d'autres productions viendront s'installer, comme ça se fait beaucoup à Los Angeles, dans les studios américains. Donc c'est un outil qui ne nous appartient pas. Il appartient au cinéma français, à tout le monde. Faites-en votre outil de travail préféré. Vous ne pourrez pas me faire plus plaisir.
Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est donc votre son du jour, mais il date d'il y a quelques années.
Oui, celui que vous entendez, c'est le réalisateur français Luc Besson qui parle à l'époque de la Cité du cinéma qui vient d'être ouverte, projet d'un grand studio à la française qu'il avait initié et dans lequel il avait installé les bureaux de sa société de production, Europacorps. Et là, les deux structures sont aujourd'hui scrutées par la justice française. Une enquête a été ouverte au printemps sur les conditions de financement de la Cité du cinéma et ce jeudi, on apprend que deux enquêtes visent aussi Europacorps, la société de Luc Besson. La première, confiée à la brigade financière de la police judiciaire de Paris, a été ouverte car les comptes de la société auraient fait l'objet d'un signalement. Et l'autre fait suite à la plainte d'un ancien associé de Luc Besson. Elle a été déposée en avril 2014. Elle concernerait des soirées organisées justement par Europacorps à la Cité du cinéma. Et elle a été confiée à l'Office anticorruption de la PJ de Paris.
On passe maintenant au dossier du jour. Le forum du Blanc-Mesnil, l'une des scènes conventionnées les plus inventives du département de Seine-Saint-Denis, est menacée. L'affaire ressemble à ce qui s'est passé aussi au centre culturel Théo Argence de Saint-Priest ou encore à Toulouse. C'est-à-dire que dans tous les cas, la ville a changé de couleur politique, elle est passée à droite et le nouveau maire remet en cause la programmation.
Oui, ce nouveau maire, il a fait campagne en s'opposant à une programmation, je cite, trop élitiste du forum qui doit accueillir, par exemple, prochainement, Orlando d'Olivier Py, directeur du festival d'Avignon. Et fidèle à son message de campagne, eh bien le maire a convoqué un conseil municipal qui se tient ce jeudi pour décider s'il va reconduire ou non la convention du forum. Car le forum est donc une scène conventionnée, c'est-à-dire qu'elle repose sur un fragile équilibre financier qui associe la région, le département, le ministère et surtout la ville. Sans soutien de la ville du Blanc-Mesnil, c'en est fini du forum. Emmanuel Constant est conseiller général de la Seine-Saint-Denis, toujours à gauche. Il soutient le forum et il a tout tenté pour convaincre le maire de changer d'avis.
Disons que le forum culturel est pour nous une scène importante parce que c'est la deuxième scène conventionnée du département. Et à ce titre-là, ça nous a permis de travailler ensemble à la diffusion de la création artistique et à la fois la mise en place d'une politique d'éducation artistique et culturelle en direction notamment des collégiens qui a été assez riche. Et lors du changement de municipalité, naturellement, finalement, je suis allé voir le maire du Blanc-Mesnil, qui a gentiment et rapidement accepté de me recevoir, pour lui expliquer qu'on tenait beaucoup à ce travail et qu'on avait quelques inquiétudes compte tenu de ce qui s'était dit pendant la campagne des élections municipales. On a eu un échange très courtois, mais le fait est que plusieurs semaines et plusieurs mois après, on ne nous a pas donné de réponse jusqu'à la publication de cette note qui témoigne clairement de la volonté de ne pas signer de convention.
Face à la situation, le directeur du forum, Xavier Crécy, lui aussi était prêt à faire des concessions.
Oui, à négocier. Alors, il dénonce évidemment une régression alarmante sur le sujet de la création partout en France, puisque, on l'a dit, cette question touche beaucoup de villes et de scènes. Mais face à la menace de disparition pure et simple de son association et de son projet artistique, il a tenté de négocier avec le nouveau maire.
Dès que la nouvelle municipalité a été élue, j'ai établi le contact, bien évidemment, sur la base d'un aménagement. Ce que je leur avais proposé, c'était un aménagement de la scène conventionnée, c'est-à-dire d'entendre leurs préoccupations, c'est-à-dire le fait qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de spectacles grand public, etc. Donc j'ai essayé d'engager une discussion sur est-ce qu'on peut trouver un équilibre, c'est-à-dire est-ce qu'on peut garder l'essentiel du cœur du conventionnement, effectivement, en intégrant des spectacles comme vous le souhaitez. C'est-à-dire, grosso modo, ce qui m'avait été dit, nous, on veut de la variété, du stand-up et du boulevard. Je crois comprendre que pour la mairie, c'est les élus eux-mêmes qui peuvent faire une programmation. Si on se situe dans une logique d'offre et de demande, bon, le maire ou le maire adjoint à la culture, ils aiment bien tel ou tel artiste, donc pour eux, ce serait tout à fait normal qu'ils soient programmés dans leur équipement municipal, puisque s'ils l'aiment bien, c'est que donc plein de gens doivent bien l'aimer. On se retrouve effectivement avec un petit bond en arrière, là. C'est très étonnant les régressions qui sont à l'œuvre.
Du côté de la nouvelle municipalité, la décision de se défaire d'une scène comme le Forum est totalement assumée.
Oui, Karim Boumediene est le maire adjoint du Blanc-Mesnil en charge de la culture. Il explique que cet aménagement proposé par Xavier Crécy était trop complexe à mettre en œuvre puisque le cahier des charges d'une scène conventionnée était trop strict et il évoque l'abandon de la création de manière totalement décomplexée. Écoutez-le.
On a dit pendant la campagne électorale que nous avions l'ambition de démocratiser, entre guillemets, ce lieu qui est une scène conventionnée, qui a bien sûr un cahier des charges qui est strict. Enfin, avec le forum, pour essayer de faire court, le forum, sans pouvoir opposer la création au public, il y a une place importante à la création artistique, et c'est très bien. Hein, c'est vrai qu'il y a une grande part du Inn d'Avignon qu'on retrouve sur la scène du forum au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. C'est un choix, puis voilà, il y a un effort qui est conséquent de soutenir une telle démarche. C'est un choix pour le coup politique. Et aujourd'hui, nous souhaitons remettre au centre de l'échiquier les publics. Nous, on souhaite proposer à cet endroit, au forum, une programmation qui puisse parler au plus grand nombre, sans que la qualité soit remise en question. Mais manifestement, oui, l'avenir de la création, de l'accompagnement des artistes en résidence, etc., est en jeu.
Voilà, alors verdict ce soir au conseil municipal, c'est très assumé, vous l'entendez. Peu de chances donc que la convention soit revotée. La saison du forum s'arrêtera donc vraisemblablement en décembre. Elle sera donc totalement remise en cause pour le reste. Si l'association devait être mise en faillite, elle laisserait, je le rappelle quand même, une vingtaine d'employés sur le carreau. Et la mairie promet d'envisager des solutions de reconversion pour eux.
J'ai jamais entendu un discours aussi frontal et aussi décomplexé. Jacques Weber, peut-être une réaction, Jacques Weber.
Ah, frontal, c'est le mot.
Ouais. Weber, vous qui avez dirigé deux théâtres à Lyon et à Nice.
Ça ne m'étonne pas tellement parce que c'est des choses c'est une tendance qui a commencé à naître il y a une vingtaine d'années où on parle d'abord de rentabilité, d'amortissement des subventions, ce qui est un contresens absolu. Et d'autre part, on sait très pertinemment qu'un lieu sans le poumon de la création n'existe plus. Il devient un garage, ni plus ni moins. Et puis il y a surtout une ambiguïté de langage quand on dit pour le plus grand nombre ou pour le plus grand. Ça ne veut rien dire. C'est qui ce grand nombre? C'est avec quoi qu'ils remplissent les salles? Alors on le sait, très bien.
D'un seul coup, il y a
un flot de gens qui en effet vont venir au théâtre, mais c'est pas ça le grand public ou le public populaire sur lequel il est très difficile en effet de travailler, mais c'est par une politique soutenue et longue que l'on arrive à quelque chose, avec des risques et oui, avec des salles vides. Et c'est pour ça que le théâtre subventionné existe. Mais cette tendance-là est extrêmement dangereuse, car non seulement elle est là, elle fait fleur au Front National, alors n'en parlons pas, mais même et dans les cités de droite, et même dans certaines municipalités de gauche. Car en effet, cette histoire de rentabilité, de fonctionnement, de résultats positifs, c'est vraiment une des choses qui est en train de se mettre en place, qui est très préoccupante.
Peut-être un commentaire de votre côté, Mike Lee, réalisateur britannique.
Je suis pleinement d'accord avec ce que vient de dire M. Weber. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Royaume-Uni, ce débat existe depuis des années. Mais dans la réalité, dans les théâtres régionaux subventionnés, la programmation est de plus en plus audacieuse, radicale. Et malgré cela, ou grâce à cela, je dirais, le public vient, parce qu'il ne faut pas considérer que le plus grand nombre, c'est le plus petit dénominateur. Au contraire, plus on offre de la qualité, plus les gens viennent nombreux pour voir des pièces, des œuvres plus ardues. Pas des choses absconses ou ésotériques, non, des choses intelligentes, de qualité. Quel est le but de subventionner le théâtre si c'est pour plaire au plus grand nombre et avec des objectifs minables et commerciaux?
Jacques Weber, je crois que la cause est entendue.
On est d'accord, puis je voudrais donner de simples exemples, que ce soit la programmation d'Odéon, de Bobigny, enfin de plein de lieux que l'on connaît, c'est plein à craquer d'un vrai public et des gens sont fous de joie. Voilà.
On poursuit avec les brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec ces deux portraits sérigraphiés de Andy Warhol qui ont été adjugés mercredi pour plus de 150 millions de dollars au total à New York par Christie's, avec notamment Triple Elvis, sérigraphie réalisée en 63 à partir d'une photo du King, qui a été adjugée plus de 81 millions de dollars, bien au-delà des 60 millions estimés après seulement 6 minutes d'enchères.
Le prix de Flore va à Aurélien Bélanger pour l'aménagement du territoire.
Dans ce roman paru chez Gallimard, Aurélien Bélanger raconte la construction d'une ligne de TGV, ce qui sert de prétexte à une réflexion sur la répartition de l'espace entre les hommes. Le lauréat a été choisi au premier tour par 8 voix contre 2 à Frédérica Amalia Finkelstein, qui a 23 ans pour son premier roman, L'Oubli.
Et le Grand Prix du roman Métis 2014 a été attribué à l'auteur congolais Inkoli Jambofane.
Pour Congo Inc. Paris chez Actes Sud, le lauréat va recevoir son prix le 2 décembre à La Réunion et il rencontrera ses lecteurs. Je rappelle que depuis 5 ans, ce Grand Prix du roman Métis de la ville de Saint-Denis à La Réunion récompense un roman francophone paru depuis moins d'un an, qui met en valeur justement les valeurs du métissage.
Et bien la dernière.
Alors c'est une histoire de gambette et de record. La troupe du Moulin Rouge, légendaire cabaret parisien, s'est adjugée 3 nouveaux records du monde, dont le plus grand nombre de ronds de jambes de French Cancan, 29 en 30 secondes. Une performance absolument incroyable, réalisée par un rang de 44 danseuses sur un air d'Offenbach. Pour l'occasion, la Grande Maison du Rouge et de la Gambette avait convoqué un petit juge du Guinness Book des records, dont la 60e édition paraît aujourd'hui. Le Moulin Rouge décroche aussi le record mondial du plus grand nombre de positionnements de la jambe autour de la tête. C'est l'une des figures les plus acrobatiques du French Cancan.
Et plus appréciées.
Et des plus appréciées. Le soliste Adonis Kosmadakis en a réalisé 30 en 30 secondes. Et puis aussi un autre danseur, Nicolas Filanguegedara, a lui aussi amélioré un précédent record, le record des serpillères.
Des serpillères.
Redoutable toupie au sol qui enchaîne 36 grands écarts en rotation de 30 secondes. Je n'ai rien compris, mais ça nous fait une belle joie.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités ?
Non, je vais juste dire que ça m'a rappelé un des plus beaux, pour moi, un des films que je préfère au monde, qui est French Cancan de Jean Renoir, avec l'immense Jean Gabin. Voilà.
Et vous, Mike Lee ?
I think Offenbach will be delighted with this.
Oh, Offenbach doit être ravi de tout cela.
Le rendez-vous.
Turner, sir.
Let everything be to your satisfaction, Mr. Turner.
It is indeed, Mr. President.
Good morning, Turner.
Mr. Turner.
Good morning, Mr. Turner.
Plateau Turner avec vous, Mike Lee, metteur en scène et réalisateur britannique. Palme d'or à Cannes en 1996 avec Secret et mensonge. Lion d'or à Venise avec Vera Drake, c'était en 2004. Et mercredi prochain sort en salle Mr. Turner, un film que vous avez centré sur les dernières années de la vie du peintre britannique Turner, membre de la Royal Academy of Arts. Turner est joué par Timothy Spall, qui a reçu le prix d'interprétation à Cannes. Et on le voit à l'œuvre et dans sa relation avec son père, sa gouvernante, la dernière femme de sa vie, puis bien sûr le monde de l'art au début du 19e siècle. Pas de biopic, ce n'est pas un biopic, le film, mais simplement les dernières années. Qu'est-ce qui se jouait dans les dernières années de sa vie pour que vous en fassiez le centre de ce film ?
It's the last 25 years.
Ce sont en fait les 25 dernières années de sa vie.
I didn't want to make a biopic.
Un biopic, ça ne m'intéressait pas. C'est pas ça que je voulais faire. Il aurait fallu trouver un petit grassouillet qui ressemble à Timothy Spall pour jouer le rôle de l'enfant. Bon, ça aurait pas été terrible du point de vue du casting. Non, mais en fait, c'est une partie importante de la vie de Turner. C'est lorsque son travail était devenu particulièrement radical. Il a connu des événements importants, la mort de son père. Et tout ce que je voulais dire sur Turner pouvait être intégré dans ce quart de siècle de la fin de sa vie.
Dans votre note d'intention, vous expliquez que ce qui vous intéressait avec Turner, c'était, je vous cite, « filmer nous-mêmes, nous qui essayons d'être des artistes, avec toutes les difficultés que notre vocation impose. En quoi filmer Turner serait en quelque sorte faire votre autoportrait d'artiste et de cinéaste ?»
Well, it isn't a self-portrait.
Non, non, c'est pas un autoportrait de l'artiste que je suis ou que je voudrais être. Hein. Comme dans mes films précédents, dans mon film précédent Topsy Turvy, je veux que la caméra se tourne vers les créateurs, des cinéastes qui montrent les images au public. L'examen de Turner, son parcours, sa relation entre sa vie privée et sa vie professionnelle reflète tout de même les questions que se pose l'artiste.
Pourquoi avoir, depuis quelques films, mis l'accent sur des créateurs dans votre cinéma, Mike Lee ?
Well, there are two.
Depuis quelques films, vous dites, en fait, il y en a deux. Il y en a un que j'ai fait il y a 15 ans et puis l'autre qui est plus récent.
Because I think, for me, artists,
la raison est la suivante. À mes yeux, les artistes sont comme tout à chacun. Ce sont des gens qui travaillent et qui font des choses.
J.M.W. Turner, in the movie,
Turner, tel que l'examine dans le film, me fait dire, bon voilà, un artiste, certes, un génie, peut-être, mais regardons l'être humain, regardons la personne qui se retrousse les manches, travaille et qui crée. Regardons cet homme. Et en fait, je fais une espèce de subversion de la notion de biopic. Je le regarde en trois dimensions, comme je regarderais n'importe quelle autre personne, mais en même temps, c'est un grand artiste.
Alors,
ce qui est très réussi dans le film, c'est que vous filmez avec beaucoup de finesse la peinture de Turner, presque en opposition avec l'homme, gros, laid, qui se décrit comme une gargouille. Il grogne, éructe en permanence, presque comme un cochon. D'ailleurs, dans un plan, vous montrez le père de Turner qui rase son fils juste après avoir rasé une tête de cochon avant de le cuisiner. Turner en cochon, c'est ça que vous aviez envie de montrer, Mike Lee ?
Non, c'est pas du tout ça que je voulais montrer. C'est une petite plaisanterie que vous évoquez là, et ce n'est en rien un des grands thèmes de ce film. Voilà, c'est tout, je m'arrêterai là.
Mais pour autant, il y a bien une dimension animale dans la façon qu'a de jouer le personnage, votre acteur, avec perpétuellement des grognements qui sont dans le film. Donc il y a quand même cette dimension presque animale et organique du peintre.
Dans les recherches que nous avons faites sur Turner, il apparaît que Turner grognait. Parfois, il s'exprimait de manière châtiée, parfois il était peu disert, taciturne même. Mais Turner n'est pas vraiment un animal, mais on peut le qualifier de viscéral, de physique. C'est un artiste physique, empli de sensualité, de sexualité. Mais en fait, il se salit, il se met les mains dans le cambouis, ou dans la peinture plus exactement. Quand il y a pas mal de films sur des peintres, mais on ne voit pas leur travail, on ne les voit pas au travail. On les montre de manière un petit peu éthérée dans leur univers onirique. Non, Turner, c'est un type de la classe ouvrière, artiste certes, mais artisan aussi. Un artisan qui se retrousse les manches le matin et qui met les mains dans le cambouis.
C'était important pour vous qu'il vienne de la classe ouvrière ?
He was a working class.
C'est pas moi qui choisis, hein. Il est de la classe.
Vous avez choisi quand même de tourner un film sur Turner.
J'ai choisi Turner
parce que c'est Turner. Je ne me suis pas dit, on va faire un truc sur un peintre, quel peintre va-t-on choisir ? Non, je me suis dit, on va faire un film sur Turner. Bon, il se trouve que c'est un personnage intéressant parce qu'il a quand même un passé de la classe ouvrière et puis il s'est quand même hissé pour devenir l'un des grands peintres de l'histoire de l'art.
Jacques Weber, est-ce que ça vous...
Non, mais la façon dont on parle Mike Lee, ça répond à la question que je me posais. C'est-à-dire, quand on connaît l'œuvre un peu de Mike Lee avant, on se dit, tiens, pourquoi Turner ? Parce que ce qui est incroyable, c'est que la peinture de Turner n'a rien à voir, justement, avec le personnage dont vous me parlez. Bon, j'ai pas vu le film, mais j'ai une envie folle de le voir. Et moi, j'aime beaucoup cette dyslexie qu'il peut y avoir entre, justement, une œuvre et un personnage, quoi. Il me semblerait bien que ce soit ça qui soit en question, c'est-à-dire que c'est un homme comme les autres et qui est au travail. J'aime bien cette notion de l'homme au boulot, quoi. Ça me plaît beaucoup.
Mike Lee.
That is exactly what.
Et ben voilà.
The motivation.
C'est exactement ça, ma motivation.
I've known the paintings for years,
les peintures, je les connais depuis très longtemps, mais le personnage de Turner, je ne le connaissais pas. Ses toiles, son œuvre sont évidemment cinématographiques. Mais quand j'ai commencé à faire des recherches, J'ai été frappé par ce qu'évoque Jacques, la tension, cette dichotomie que l'on trouve entre le personnage mortel parmi les mortels et sa peinture spirituelle sublime. C'est ça qui est fascinant.
C'est quand même très beau d'imaginer un grognement qui arrive à ces fameux ciels turnériens de Turner. C'est magnifique.
C'est exactement le processus de création qu'il y a dans le film. Benoît.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que votre film est centré notamment sur cette période durant laquelle Turner travaille précisément et c'est sur les reflets de lumière, toutes ses recherches. Et c'est Dick Pope qui signe celle de votre film. C'est votre directeur de la photographie habituel. Il travaille avec vous depuis le début des années 90. Quelles ont été vos indications de lumière et peut-être aussi ses propositions, Mike Leigh?
Well, I mean, we wanted to inform the film with.
Nous voulions renseigner le film des aspects turneriens, la qualité de Turner, sa lumière, sa palette de couleurs, ses tonalités, ses ambiances. Et c'est ce que Dick Pope a réussi à faire. C'est vrai qu'on pourrait faire un film sur Turner dans lequel il n'y aurait aucune ressemblance visuelle avec le travail de Turner, mais ce serait quoi ? Un film excentrique.
Justement, au niveau de la lumière, qu'est-ce que ça a impliqué comme travail et même comme invention de la part du directeur de la photographie ?
Tout d'abord, il y a le facteur chance. Il faut avoir de la chance quand il s'agit de lumière. Et là, il s'agit de tourner en Angleterre. Ne l'oublions pas, c'est toujours difficile parce qu'évidemment, le temps change, la lumière change toutes les 10 secondes en Angleterre. Mais ce film, il se trouve que nous l'avons tourné avec une caméra numérique. Et la technologie numérique... Ça peut être tout à fait stimulant et c'est tout à fait formidable pour faire ressortir la lumière et les couleurs. Et je pense qu'on n'aurait peut-être pas pu faire la même chose en analogique.
Vous avez été formé à l'art dramatique, mais aussi aux arts plastiques en Angleterre. Quelle était la place que l'on accordait à Turner à cette époque et pourquoi n'avoir pas poursuivi cette carrière dans les arts plastiques ? Mike Leigh.
I didn't. I was already concerned with film. I trained as an actor.
C'est vrai que je me suis intéressé à l'art dramatique. C'est vrai que j'ai étudié les arts plastiques, mais j'étais également étudiant en cinéma et puis j'avais tenu quelques petits rôles au cinéma. Et d'emblée, je me suis intéressé au cinéma. J'ai étudié l'art pour devenir réalisateur. Donc la question ne s'est jamais posée. Je n'allais jamais, au grand jamais, devenir peintre. Mais ce que vous évoquez, ça remonte à il y a quelques années. Et tout de même. On va dire 500 ans, allez.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé de nous soumettre un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi. De ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Mike Leigh.
This is Georges Delerue's
Georges Delerue.
Score for Jules et Jim.
Jules et Jim.
But I chose it because
le film de François Truffaut.
I have to tell you, I choisi ça I grew up
parce que moi j'ai grandi dans les années 40 et 50 à Manchester. J'allais au cinéma sans arrêt, mais je n'ai jamais vu un film autre qu'un film hollywoodien ou un film britannique. Je n'ai jamais vu de film russe, français ou autre. Quand je suis arrivé à Londres en 1960, tout à coup, le cinéma du monde s'est offert à mes yeux. C'était l'époque de la nouvelle vague. Génial, parce que cela convoquait des idées peu formalisées du cinéma qui m'intéressaient. Par conséquent, je me suis trouvé fort inspiré par la nouvelle vague en général, François Truffaut en particulier, et Jules et Jim, bien entendu. C'est un film que je suis allé voir avec deux autres personnes. Nous étions deux garçons et une fille. Nous étions tous les deux amoureux de la même fille. On va voir Jules et Jim. J'étais jeune, j'étais très jeune. Je vais voir Jules et Jim. Et évidemment, le film, il traite de quoi ? De notre histoire à nous. C'est un traumatisme. C'est pourquoi j'ai choisi cette musique.
Quels sont vos premiers souvenirs de cinéma, puisqu'on parlait de souvenirs de cinéma du
Moi, c'est à la Cinémathèque, c'est d'abord la caissière, une grande russe formidable qui nous parfois nous facilitait l'entrée. Non, c'était une femme qui avait un certain âge et c'était rigolo, quoi. Il fallait faire la queue, etc. Moi, c'est d'abord beaucoup de Jean Renoir, énormément de Jean Renoir, Fritz Lang qui m'a énormément marqué. Je sais pas pourquoi je pense à Steely Naiden dans Asphalt Jungle, c'est un film qui m'a énormément marqué. Les films de Nicolas Ray particulièrement, et c'est de là que tout est parti. Puis après, le cinéma asiatique, Kurosawa, Barberousse, pour moi, c'est un grand coup dans la figure. Et puis après, des films très très clairs comme John Ford qui m'ont bouleversé complètement.
Et du côté du cinéma anglais,
c'est à la Cinémathèque que tout s'est fait.
Et du côté du cinéma anglais, par exemple, qu'a pu représenter Mike Lee pour vous?
Il y a Mike Lee qui a été très important avec Ken Loach parce que pour moi, c'est tout simplement des artisans du social, quoi. Je trouve que le film doit être beau si en plus il est je suis sûr qu'il ne va pas aimer ce mot, mais militant, c'est quand même pas mal non plus. Je crois qu'il y a quelque chose quand même qui est... Je crois que c'est toujours très, très important de ne jamais être en rupture, qu'elle soit poétique ou non, avec le vivant, quoi, avec la société que l'on traverse et le monde que l'on traverse. Quoi.
Militant, c'est un mot qui vous gêne, Mike Lee, pour votre cinéma ?
If you mean by militant,
si par militant vous entendez quelqu'un qui n'est pas prêt à la compromission, quelqu'un de radical qui regarde la vie dans sa brutale réalité, oui, d'accord, militant, pourquoi pas.
C'est comme ça que je l'entends.
Oui, à propos de Ken Loach, c'est vrai qu'en France, on a tendance à vous rapprocher. Pour autant, vos méthodes n'ont pas grand-chose à voir. Lui vient plutôt du documentaire, vous du théâtre des arts plastiques. Et je sais qu'il déteste, par exemple, les répétitions, alors que vous, vous en êtes friand. Dans le rapport, justement, aux comédiens, qu'est-ce qui vous oppose, Ken Loach et vous, Mike Lee?
Parce que vous, vous travaillez énormément les répétitions, hein, très en amont même du tournage.
He doesn't like to rehearse at all.
Ken Loach n'aime pas du tout les répétitions et nous, on répète pendant 6 mois avant de tourner. Nous préparons pendant 6 mois, je devrais dire. Autrement dit, nous pouvons nous rendre sur le lieu du tournage et créer le film en avançant. Évidemment, on improvise, on répète de manière très rigoureuse et ainsi, dans la répétition, on écrit les dialogues et ainsi de suite. Mais le scénario, je ne l'écris pas sur papier. Non, on l'écrit au fur et à mesure que l'on prépare les choses. Ken Loach, lui, d'abord, c'est un ami, sachez-le, mais il a une approche radicalement différente. Il me dit, oh non, moi je ne peux pas répéter pour aussi longtemps. Lui, Ken Loach, il veut que ses comédiens soient réels, spontanés, et de manière un peu documentaire. Donc c'est l'antithèse de la façon dont je travaille. Mais à bien des égards, l'objectif est quand même assez similaire.
Jacques Weber. Ce sont des problématiques qui n'appartiennent qu'au cinéma. Et hélas, à l'heure actuelle, parfois on confond au théâtre ce genre de problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui au théâtre prétendent que j'ai besoin du gars tel qu'il est, spontané et naturel. Ce qui n'est absolument pas possible au théâtre. Et je trouve que ce type de débat est extrêmement passionnant sur le plan cinématographique, mais ne doit pas exister sur le plan théâtral.
Et pour la simple raison, c'est que Mike Lee vient du théâtre. Et d'ailleurs,
personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un débat. Moi, je fais du théâtre aussi.
Mais justement.
Hein. Ah oui, mais c'est ce que je dis.
Ouais. À mon avis, il n'y a pas de débat. Le théâtre, c'est le théâtre. Et en tant que tel, il faut que ça soit raffiné, élaboré. On ne peut pas demander aux comédiens d'être spontanés. Peut-être des enfants aussi. Peut-être qu'on peut faire ça avec des enfants, mais pas avec des adultes.
On est bien d'accord.
J'ai pu lire, c'est ma dernière question, que dans les années 60, vous avez découvert un documentaire sur la répétition de la pièce Marassade de Peter Weiss, mise en scène par Peter Brook. C'est un documentaire qui vous a marqué. À quel niveau est-ce que vous y avez vu même une méthode de travail, Mike Lee?
Non,
c'était une inspiration, mais dans ce documentaire de la BBC de l'époque, on voyait Peter Brook et ses comédiens en pleine répétition, et ils répétaient pour le Marassade. Chacun des comédiens avait choisi un personnage dans une institution psychiatrique sur lequel fondait son personnage. Alors, dans le documentaire, on les voit improviser en pleine exploration. Et moi, ma réaction, ça a été, si on peut improviser et faire de l'exploration pour servir un texte existant, pourquoi ne pas aller au-delà et utiliser ce processus pour créer une nouvelle pièce, un nouveau texte? C'est ce à quoi je me suis employé.
Le documentaire
lui-même, ce n'est qu'un documentaire, mais Peter Brook, on le connaît bien par son travail. Et Peter Brook nous a enseigné que ce qui peut survenir dans la préparation d'une pièce vont au-delà de apprendre les répliques et puis savoir où mettre les pieds pour ne pas se casser la gueule dans les meubles qui sont sur scène.
19h20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Bête de scène avec vous, Jacques Weber, comédien et metteur en scène. Vous êtes actuellement à l'affiche d'Hôtel Europe de Bernard-Henri Lévy au Théâtre de l'Atelier à Paris, avant de jouer également seul en scène Gustave, un spectacle inspiré par la correspondance de Gustave Flaubert. Et vous publiez « J'aurais aimé être un rebelle », un livre d'entretien aux presses de la Renaissance dans lequel vous revenez sur votre parcours, votre enfance, mai 68, le conservatoire, etc. etc. Mais vous commencez, le premier chapitre s'intitule « J'aurais aimé être Cyrano de Bergerac ». Vous l'avez été en 83 sous la direction de Jérôme Savary. Qu'est-ce qui s'est joué pour vous avec ce personnage? On le sait un petit peu, mais pour que vous en fassiez dès le départ le premier sujet de cette autobiographie, j'aurais aimé être un rebelle.
Je crois, d'abord, le livre est une conversation à un moment donné de mon existence avec une amie.
Donc, réalisatrice.
Les choix se font de façon un peu impromptue. C'est vrai que Cyrano a été important, mais je crois comme énormément de gamins de mon époque, de mon âge, et encore maintenant, ça existe encore, cette espèce de personnage omniprésent dans la mémoire des gens. Alors, parce qu'il est très, très facile à appréhender. La première image qu'on a de Cyrano, elle est réconfortante. C'est un homme sans concession, à première vue. C'est un homme aimé de tout le monde, à deuxième vue. C'est quelqu'un qui se bat merveilleusement, qui parle merveilleusement bien, qui est prêt à faire le don de lui-même totalement. Donc ça, c'est franchement français, c'est franchement héroïque, c'est franchement presque romantique aussi. Alors même que, après, et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'au moment de le travailler, je me suis rendu compte à quel point tout ça était finalement un effet de l'heure, quoi. Et qu'il renvoie même à ce que le théâtre a de vérité et de mensonge. C'est-à-dire que c'est le mensonge qui permet, par la petite porte, de découvrir des vérités, le théâtre. Et c'est ça qui me fascine toujours.
Lucille.
Alors, la tirade « Non merci » de Cyrano ouvre le florilège de textes qu'on retrouve à la fin du livre et qui correspond en fait à un spectacle que vous jouez depuis des années et qui s'appelle « Éclat de vie ». Est-ce que vous la jouez aujourd'hui de la même manière qu'en 1983?
Non, pas du tout. D'abord, la tirade « Les non merci » est une très très belle tirade si elle n'avait pas deux dérapages tout à fait signifiants qui sont très intéressants, qui est qu'à un moment, il dit « Être seul, être libre ». Être seul, c'est une connerie. Être seul, c'est d'un seul coup une revendication désespérée, tragique et romantique qui n'a aucune espèce, enfin qui, à mes yeux, est fausse. Et puis à un moment, il dit, mais chanter, rêver, rire, passer. Ce passé a quelque chose d'extraordinairement beau dans ce qu'il a de triste et de désarroi, alors que la tirade, elle, est très revendicatrice. C'est non à la concession, quelle qu'elle soit. Mais alors, où ça devient très troublant et très passionnant, c'est que ce type qui dit très clairement non, je ne me compromettrai jamais, se compromet sur le terrain le plus essentiel d'un homme, qui est le terrain de l'amour, puisqu'il le met en scène, ni plus ni moins, le stratagème de Faust, quoi, entre Christian et lui.
Magli, par quelle forme de théâtre avez-vous commencé votre carrière? Un théâtre absurde, je crois?
Absurde, non.
Oui.
Mes propres pièces, au tout début, c'était des versions du théâtre pauvre, si vous voulez, du théâtre populaire. Et c'est un petit peu ce sur quoi je travaille encore aujourd'hui. Il s'agit de relations entre des personnages de la vie de tous les jours. Non, ce n'était pas du tout du théâtre absurde. C'était au contraire bien ancré dans la réalité.
Un mot sur le titre, Jacques Weber, « J'aurais aimé être un rebelle ». Quelles sont au théâtre les grandes figures de rebelles qui ont pu vous inspirer? Est-ce que, par exemple, Robert Hossein a été une figure à pu incarner cela.
Non, il n'en voudra pas. C'est pas un rebelle. Il aurait peut-être voulu l'être, mais il est, alors comme moi d'ailleurs.
Comme vous.
Alors. Mais il ne l'est pas. Non, il ne l'est pas du tout. Non, les rebelles, ce sont des gens. C'est Roger Blin à une époque, c'est Beckett à une autre époque. Il y en a énormément. Ça ne me vient pas là tout de suite, mais ce sont des gens qui ne rentrent vraiment pas dans le rang et qui, je dirais même, risquent leur vie pour faire réexister les choses. Je ne sais pas d'ailleurs si... Pour moi, un vrai rebelle est quelqu'un qui met sa vie en jeu.
Et donc vous avez...
Et son existence.
Donc au théâtre, on ne le fait pas.
Justement, c'est tout le problème que pose le théâtre, enfin à mes yeux, quoi, très, très simplement.
Donc pour être un rebelle, il aurait fallu faire autre chose ?
Oui, je crois vraiment, oui. Non, c'est-à-dire que je dis que, attention, n'enflons pas le rôle de l'artiste, ne l'enflons pas. Nous sommes des commentateurs agréables, dans le meilleur des cas, mais je ne sais plus quel philosophe disait que la représentation théâtrale n'est ni plus ni moins importante qu'une tasse de thé qui vient à la belle heure en hiver, quoi. Je pense de plus en plus ça. Peut-être hélas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me touche, qui m'interroge sans arrêt.
Vous croyez ce que vous dites là ?
Oui, ça me tourmente beaucoup. Je me dis que même si ce peu d'importance me m'interroge, en même temps, ce peu d'importance, il est important de fait. Hein. Je pense que le monde sans théâtre ne pourrait pas respirer, ne pourrait pas vivre. Il a besoin de ça. Mais en même temps, il faut qu'on reste léger. Je sais pas comment.
Mike Lee.
Et je crois surtout que de plus en plus, les gens ont besoin de participer au théâtre plus que de le regarder. C'est-à-dire que la catharsis sur laquelle tout le temps presque ça s'est appuyé est de plus en plus en train de se dissoudre dans une volonté impérative de participer et de jouer. Et ça renvoie à quelque chose qui est en train de naître, c'est le grand amateurisme théâtral, quoi, qui est dangereux mais qui peut être formidable.
Minkley, pourquoi vous posiez cette question justement à Jacques Weber ?
There's something about what you're saying that I don't completely understand.
Parce que dans ce que vous dites, il y a quelque chose que je ne comprends pas complètement.
Because it's true that in the final analysis.
Certes, au bout du compte, la nourriture, un abri, la naissance, la mort, voilà les choses importantes. La tasse de thé, même au bon moment, c'est moins important. Mais je pensais qu'on serait d'accord pour dire que le théâtre, l'expérience, l'importance du théâtre, le poids du théâtre, c'est quand même quelque chose dans la vie des gens. L'aspect thérapeutique du théâtre, c'est quand même d'une importance fondamentale. C'est inhérent à la nature humaine que de raconter des histoires. On faisait du théâtre il y a des millénaires. Évidemment, le bâtiment théâtre est venu après, puis la caméra est venue. Mais il faut que les gens s'expriment quant à leurs sentiments, quant à leur expérience de la vie. Évidemment, je pensais que vous alliez être d'accord avec ça. Je suis, comment dire,
circonspect.
Non, dubitatif.
Mais j'aime bien que vous essayiez de me remettre en place, mais parce que j'exagère peut-être, mais j'ai tellement peur de plus en plus des superlatifs dans la façon dont certains artistes, artisans s'expriment. Quoi. Ça me fait très peur. Quoi. Il y a un moment où je trouve que, justement, comme vous venez de le rappeler, on fait partie d'un ensemble de choses essentielles. Mais nous ne sommes pas le lieu d'interrogation essentiel. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, en effet, c'est important, ce lieu qu'on a fermé pendant la Révolution, parce que c'était un lieu de résurgence monarchiste, alors on l'a fermé tout de suite, ce lieu de totale indépendance et de liberté, même s'il a, en effet, si le lieu lui-même est venu après l'évidence de besoin de s'exprimer. Mais ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est que c'est plus C'est ça par quoi j'ai terminé, c'est qu'il me semble à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui bouge, qui n'est plus l'ordre de la représentation, mais de l'ordre de l'interprétation, qui est en train de prendre de plus en plus les gens. Alors, c'est tout ce que je constate, j'en sais pas plus.
Cette dimension participative qui demande à monter sur le plateau.
D'ailleurs, qui renvoie aux origines, hein, qui renvoie au cœur, hein, au cœur antique, quoi. Moi, ça m'interroge beaucoup. Et en même temps, je me dis que plus on aura cette espèce de grande chose difforme et belle en même temps qu'elle amateuriste, plus on aura besoin des artisans qui iront s'exprimer dans des tout petits lieux de 30 ou 40 personnes et où il y aura là encore quelque chose de l'ordre de la, vous savez, de la petite lumière rouge quand les églises étaient ouvertes, quoi. Voilà, mais bon, tout ça est simple.
Lucille.
Jacques Weber, vous évoquez dans le livre de nombreuses voix qui vous ont marqué, qui ont marqué votre enfance, celle de Gérard Philippe, dont la mort est un de vos premiers souvenirs, celle du général de Gaulle, mais aussi celle-ci.
Approche, ma jolie. Voyons, quel est celui de nous à qui le devoir t'impose par-dessus tout obéissance?
Pour moi, le devoir prend ici deux visages. À vous, je dois la vie et l'éducation. Et tout en moi me parle de mon père comme du premier seigneur de mon enfance. Oui, je suis votre fille.
Dieu soit avec vous, j'ai fini.
C'est Henri Roland, en l'occurrence dans Othello en 1962. C'est un de vos premiers souvenirs de théâtre, pas Othello, mais l'avare dans lequel il a joué. Mm-hmm. Qu'est-ce que cette diction-là, celle de Henri Roland, a pu déclencher chez vous à cette époque?
Pour moi, il y avait une espèce d'aristocratie, de la simplicité du mot, et une façon de lui redonner du muscle. Je ne sais pas comment, c'était quelque chose de... une torréfaction du mot, je ne sais pas. Ça m'a toujours bouleversé. Et ce tome a dit cette chose extraordinaire à propos du vers de Molière. Et il avait une conférence à faire sur le vers sur l'Alexandrin. Et il disait, oh, mais quant au vers de Molière, ce n'est pas un vers de poète. C'est très rarement un vers de poète. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est une prose qu'aurait mis un smoking pour aller voir les gens. Et je trouvais ça absolument magnifique. Voilà.
La voix, ça a été un problème dans votre parcours à un moment donné, au moment de Cyrano de Bergerac. Vous l'avez perdu.
Perdu, oui. C'était carrément. Une phobie, ce qu'on appelle une phobie vocale. Et ça, c'est assez chiant parce que tout le monde vous dit oh, c'est dans ta tête, c'est dans votre tête. C'est dans ta tête. Eh bien oui, c'est dans ma tête et c'est terrible. Oui.
Sauf que véritablement, vous avez été muet par rapport à ce rôle.
Oui, c'est-à-dire que la voix, au moment où vous entrez en scène, et au moment où elle veut, elle s'en va. Donc vous êtes là, vous voulez émettre un son et ça fait comme ça.
Qu'est-ce que ça a pu modifier par la suite dans votre travail sur les textes?
Ça a pu modifier qu'il a fallu que je cherche ailleurs. C'est-à-dire, moi, j'étais ce qu'on appelle un acteur à moyen. Il y en avait même certains qui disaient, selon la tradition italienne, que j'étais un acteur trombone. C'est-à-dire ces gens qui ont des espèces du coffre et des moyens. Et bien, quand vous n'avez plus ces moyens, il faut aller chercher ailleurs. Et bien m'en a pris parce que je crois que cette fracture a, en tout cas, fait commencer à naître un comédien que j'aime un peu mieux qu'avant. Voilà.
Lucille.
Le livre ouvre sur une citation des Fourberies de Scapin de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Je cite la formule exacte. Qu'est-ce que ça a comme sens pour vous de parler de Poquelin plutôt que de Molière pour commencer justement une sorte de récit de soi?
Ah, je n'avais pas pensé ça. Alors vraiment, je n'ai pas fait attention à ça, mais bravo. J'aime bien, moi, l'homme Jean-Baptiste Poquelin. J'adore ce que dit Maclès, c'est ces hommes qui sont au boulot. Molière écrivait dans l'urgence, il fallait faire vivre une troupe, il fallait se battre contre tous les pouvoirs et contre-pouvoirs. Il n'y avait pas que le roi, il y avait des milliers de petits pouvoirs qui venaient l'emmerder. Mais ce que la phrase dit, elle est magnifique, surtout de nos jours. Je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre. Parce qu'on en est en ce moment à nous dire on n'aurait jamais dû aller chez Kadhafi parce que vous voyez ce qui se passe maintenant. Bon, mais ça, c'est une des réponses. Osons et avançons, quoi, et agissons. Et c'est aussi ce que fait le cinéma de notre ami, le cinéma de Ken Loach, etc.
Comme tous les jours, donc, on demande à nos invités de venir avec un son qui les a marqués. Et voici ce que vous avez choisi, Jacques Weber.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. avec le temps.
Identification de ce son, même si tout le monde l'aura reconnu. Et la raison pour laquelle vous l'avez choisi,
Jacques Weber ? J'ai hésité parce qu'on a toujours peur quand on nous demande ces choses-là d'être banal, parce que qui ne connaît pas, qui n'aime pas à fond cette histoire. Mais cette histoire pour moi est très particulière. J'arrive à Beyrouth. Je dois tourner un film au moment où la guerre est encore là. Il y a eu la guerre des grands hôtels. J'arrive dans la zone arabe, la zone ouest. Et tout est mitraillé, sculpté à la Kalachnikov. C'est effrayant. Je prends peur. J'arrive dans un là où je dois habiter, je vois que c'est perdu de balles, qu'il n'y a plus de vitres, plus rien. Et c'est là où je dois tourner. Et j'ai un petit poste qui existait à l'époque, un petit magnétophone qui fait radio en même temps, vous savez, ces vieux appareils qu'on avait à l'époque. Et je descends sur la corniche. Et alors la corniche, vous avez plein de petits camions Citroën, comme ça, qui ouvrent leur cul, qui posent des petits sièges, où on boit des citrons pressés, des oranges pressées. Et il y a plein de gens, de Béroutins qui sont là, et qui sont assis, qui regardent la mer. Et je m'assois avec eux, je suis pas bien, j'ai peur, j'ai vraiment peur. En plus, on entend les canons dans la béquette et tout. Et puis j'appuie malencontreusement sur mon... J'appuie sur la radio, j'y tiens, je vais écouter un peu de Zizik. Sur quoi je tombe ? Avec le temps. Et là, je dois dire, bah oui, j'ai une grosse larme, quoi. C'est un... Et je trouvais, là, je me suis dit, là, il y a quelque chose de là-haut qui tombe. Je me dis, c'est pas possible d'entendre cette chanson à ce moment-là. Et c'est vrai qu'elle, pour moi, elle a cette résonance. Et puis, quelqu'un qui dit « ne rentre pas trop tard, les mots des pauvres gens », c'est les mots des pauvres gens, je ne sais pas. On oublie quand même un peu ce que fait le poète qu'a été Léo Ferré. Vraiment, c'est immense, quoi.
Qu'il en eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens.
Eh bien, on va rester en musique tout de suite, puisqu'on va passer à l'actualité musicale du moment avec La Session.
Le rendez-vous, La Session.
La Session, un choix défendu ce soir par Benoît Lagane.
Oui, pour une session pop love, etc. avec Nancy Boyce, jeune auteur, compositrice, interprète originaire du Sud-Est et dont le premier album...
Comme par hasard.
Non, du Sud-Est. Moi, je suis du Sud-Ouest.
C'est
Laurent.
La même chose.
Vous mélangez tout. Et dont le premier album vient de paraître sous le label La Folie Records. Et dans cet album, Nancy Boyce passe d'une ambiance acoustique à un mode plus pop et électronique, nourri par Cat Power et Devendra Benhart, avec un phrasé qui peut rappeler parfois celui de Brigitte Fontaine. Nancy Boyce chante en français et un peu en anglais l'amour, à la plage, toi, moi, l'absente, etc. Accompagné ce soir par Jean-Baptiste Ayoub qui a co-réalisé cet album, Nancy Boyce à la voix et au xylophone, donc notre ami Jean-Baptiste Ayoub, ils interprètent Toi, moi en direct du studio 108. C'est à vous.
Ça semble si facile. Toi, moi, sans sommeil. Au lever du soleil, on suivra coûte que coûte la bonne. On ira cheval de bataille. On passera pourtant par tous les mauvais sens. C'est chercher le bonheur, trouver la ligne de cœur, oublier le bonheur, chercher la ligne de cœur. Toi, moi, toi.
Moi, par Nancy Boy, en direct dans le studio 108 de la Maison de la Radio, pour un extrait donc en duo de l'album Love Etc, paru sous le label La Folie Records. Et si vous souhaitez voir Nancy Boy en concert, notez qu'elle sera le 21 décembre Demoiselle du 5 à Marseille, ou encore le 26 janvier prochain à La Loge à Paris.
Un lieu sans le poumon de la création n'existe plus. Il devient un garage, ni plus ni moins.
Merci à nos invités. Mike Lee, Mr. Turner sortira en salle le 3 décembre. Jacques Weber, J'aurais aimé être un rebelle, apparu aux éditions Presse de la Renaissance. Je signale que vous êtes sur scène pour Hôtel Europe jusqu'au 16 novembre au Théâtre de l'Atelier à Paris. Et à partir du 25, vous jouerez Gustave également au Théâtre de l'Atelier. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Demain, eh bien, c'est la réouverture de la Maison de la Radio et dans ce cadre, émission spéciale du rendez-vous en public et en direct du studio Agora. On vous y attend. On parlera d'architecture, de mise en espace et de mise en onde avec l'architecte Roland Castro et le dessinateur François Scuiten. Et des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagagne, Lucille Como, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote. Journal de la culture, Zoé Sfez et Adrien Nazelli. À la prise de son, Élise Leu, Yanis Djoudad. À la réalisation, Thomas Beau. Et à l'interprétation, Xavier Combe.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.